Voilà. Notre invité, il est là.
Yes.
Pierre Desrochers, professeur en géographie / économie à l'Université de Toronto. Ça va bien?
Oui, ça va. Bon matin.
Bon matin. On voit beaucoup des décisions énergétiques et ça, c'est pour ça qu'on voulait vous jaser ce matin. Ouais. Là, on a le Québec avec Terre-Neuve. Le fédéral vient jouer aussi. Il y a des nananes. Comment on doit interpréter ce mouvement-là?
Ben, je vous écoutais un peu il y a quelques minutes. Vous connaissez peut-être la fameuse citation de l'économiste Milton Friedman.
Oui.
Mettez le gouvernement en charge du Sahara, puis vous allez manquer de sable. Donc, je pense que c'est pas mal ce qu'on a eu dans le monde énergétique. Bon, je veux pas... Je me souviens, il y a quelques années, j'écoutais deux podcasteurs de Lévis, et c'est là que j'ai appris que le gouvernement québécois investissait beaucoup dans filières batteries.
Ouais.
Je me souviens d'avoir sacré dans ma cuisine et j'avais personne pour confirmer la chose. Alors ce matin, c'est ça, je me demandais si on pouvait un peu se défouler sur les politiques de la CAQ.
Allez-y, il n'y a pas de trouble.
D'investir dans le vent. Ouais, c'est ça. Non, ce qui est intéressant, ça fait une vingtaine d'années que j'enseigne là-dessus, puis ça fait 20 ans que ça se passe au Danemark, en Allemagne, en Australie, en Californie, en Espagne et ailleurs. C'est toujours le même scénario, ça fonctionne jamais. Puis ce qui est intéressant avec le scénario de la CAQ, je vous écoutais un peu, une chose qu'on a tendance à oublier avec les éoliennes, c'est que les entretenir, c'est toujours beaucoup de problèmes. Il faut que tu lubrifies ça, ça a tendance à briser dans des conditions difficiles. L'hiver, tu as toujours des problèmes.
Ça brûle, hein, aussi. Quand ça brûle, là.
Oui. Ben c'est ça, je me demandais, comment est-ce qu'on va les entretenir à Bay James? En oubliant tout le reste, là, que ça coûte toujours plus cher, que ça livre jamais la quantité d'énergie que tu vas avoir, que c'est intermittent. Je ne sais pas, est-ce que le gouvernement du Québec a l'intention d'avoir des techniciens à l'année, en plus de ceux qui sont déjà là pour les barrages, pour s'occuper des éoliennes? Puis souvent, ben, quand ils ne vendent pas à moins 35, tu fais quoi? Comment tu lubrifies l'hiver? En tout cas, l'idée, c'est déjà difficile, à ce qui paraît, de gérer des éoliennes en Allemagne, en Écosse, dans des endroits où tu n'es pas trop loin de de population puis tout. Mais ce qui est intéressant avec le Québec, et moi, ce que je comprends vraiment jamais, vous avez une réserve de gaz naturel qui est facile à exploiter, qui est juste à côté d'où les
gens habitent. Dans la vallée du Saint-Laurent, là.
Dans la vallée du Saint-Laurent, et c'est un des principaux... Ben, enfin, je présume que vous avez une auditoire sophistiquée, là. Tout le monde sait que le Québec refuse de développer une des meilleures ressources de gaz naturel au monde.
On a un moratoire. Écoute, ça s'invente pas, là. On a mis un moratoire. On a chassé des producteurs potentiels gaziers. Là, il y a des grosses poursuites. Et on a un accord de libre-échange avec ça aussi. Là. On a carrément mis dehors du monde. On faisait le tour. On allait à Londres, à New York, à Tokyo. On allait chercher des capitaux, venir investir au Québec. Ouais. Du jour au lendemain, ils ont mis dehors. C'est capoté ce qui s'est passé.
Oui, puis au lieu de ça, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on veut investir dans des projets qui foirent partout dans le monde. À l'heure actuelle, bon, je ne m'attends pas à ce que le Québec suive ce qui se passe en Australie, mais ce qu'ils ont décidé de faire en Australie, c'est d'aller de l'avant, d'investir massivement avec l'éolien. Mais c'est la seule juridiction au monde qui n'a pas vraiment une grosse réserve hydroélectrique pour les appuyer. Et puis, en même temps, ils refusent de développer leur gaz naturel. Alors, et en Australie, c'est quand même plus facile de gérer des choses dans le désert avec le climat qu'ils ont.
Ben, il fait chaud, là,
ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Fait que ça serait bien quand même que les Québécois commencent à s'intéresser à ce qui se passe en Australie. Parce que là-bas, bon, les gens commencent à ruer dans les brancards. Et puis en Allemagne, qui a investi beaucoup dans le solaire et l'éolien, bien évidemment, là, vous avez, je ne sais pas si ça fait les marchettes au Québec, mais l'industrie se révolte finalement. Là, les jeunes veulent quitter la place parce que tout est hors de prix. Et je regardais également certains commentaires de gens qui semblent opposés sur, au projet de la CAQ de dire qu'il faudrait investir dans le solaire. Oui, mais le problème du solaire, c'est que même si c'est un peu moins vrai aujourd'hui, tu as toujours une plus grande demande le matin quand les gens se lèvent et le soir quand ils reviennent chez eux.
Les points,
alors, qu'évidemment, le solaire, quand est-ce que ça produit le plus? Ben, c'est au milieu de la journée quand tu as le moins besoin. Fait, en tout cas, il y a un paquet de circonstances qui expliquent que quand on a parlé de faire une première Bay James, il n'y a personne qui parlait de faire de l'éolien dans les années 70. Les gens comprenaient des systèmes énergétiques mieux qu'aujourd'hui. Et les opposants de la Bay James à l'époque, c'était des gens comme Jacques Parizeau qui disaient « il faut du nucléaire ».
Oui, Parizeau parlait de, de plusieurs centrales nucléaires là, dans la vallée du Saint-Laurent. Là.
Exactement. Pourquoi? Parce que le nucléaire, ben, c'est stable. C'est pas flexible, mais tu sais exactement ce que tu vas avoir.
100%. Tu as du jus à 100%.
T'as du jus à 100%, puis bon, c'est pas flexible, tu peux pas l'augmenter puis le diminuer comme tu pourrais faire avec du gaz naturel ou comme l'hydro qui, dans le fond, est un robinet, là, tu peux l'augmenter ou le diminuer comme tu veux. Mais c'est... Et ben, l'éolien, enfin, ça fait partie de notre espèce de haine irrationnelle envers les hydrocarbures, envers le pétrole, alors que dans le fond, il n'y a pas de, y a pas une économie moderne qui peut fonctionner sans produire du courant quand on en a besoin. Même, on nous parle toujours de la Chine. Oui, mais la Chine, maintenant, ils sont peut-être quoi? Un huitième de la population mondiale. Les derniers chiffres que j'ai vus, ils consomment 56 % du charbon sur la planète.
Ah, il y a beaucoup de pétrole, il y a beaucoup de gaz et charbon.
Oui, puis eux autres, c'est sûr. Puis ils fabriquent nos éoliennes. On nous dit, oui, mais regardez le prix, le prix du solaire puis de l'éolien a baissé depuis des années. Oui, parce qu'on les fabrique en Chine. Où ils brûlent beaucoup de charbon.
Ben, Hydro-Québec, il y a un gros projet éolien ici à Québec, là, dans l'état de la Seigneurie de Beaupré. Là. Mais les éoliennes vont être achetées l'autre bord, là. Puis il y a du côté chinois, là. Puis il n'y a pas eu d'appel d'offres.
Oui, parce qu'on ne peut pas compétitionner, non? Puis c'est la même chose ici en Ontario. On a eu les mêmes idées débiles il y a une vingtaine d'années. L'idée, c'est que on allait investir dans le solaire en Ontario, dans des endroits où on produit de l'électricité quand on n'a pas besoin. Là. Mais l'idée, c'était qu'on allait produire nos éoliennes en Ontario. Bien évidemment, on ne peut pas compétitionner avec les Chinois. Puis un autre truc avec les éoliennes, c'est que, bon, si vous regardez l'expérience canadienne, en Alberta, ils ont beaucoup investi dans les éoliennes pour se donner bonne conscience, ouais. Genre quand ils nageaient dans le cash. Mais qu'est-ce qui arrive en Alberta? Bien, quand il fait moins 30 l'hiver, tu n'as pas de vent. Et puis quand tu as du vent, l'hiver, c'est le Chinook qui vient des Rocheuses qui fait monter ta température à quelque chose comme 5 degrés quand tu n'as pas besoin d'électricité. Fait que, en tout cas, c'est le genre de choses. Dans mon cours, j'ai une liste de 40 facteurs qui expliquent pourquoi l'éolien n'est pas une bonne idée. Là, mais c'est.
Mais Hydro a avalé le Kool-Aid de l'éolien, là.
Ouais, ben, je pense qu'ils se le font pousser par le gouvernement. Je ne sais pas si c'est Hydro. L'indépendance d'Hydro, on a vu là, avec Sophie Brochu, quand elle a voulu dire non à Fitzgibbon, ils l'ont débarrassé, ils l'ont démissionné, ça n'a pas été long. Mais Pierre, on a parlé une chose qu'on ne parle pas du tout au Québec, puis l'autre Pierre en a parlé tantôt, c'est le nucléaire. L'Ontario a commencé à explorer l'avenue de ce qu'on appelle les micro-réacteurs. Là, en gros, c'est gros comme un genre de trailer de van. Puis on recule ça, puis on peut alimenter un parc technologique avec ça, par exemple. T'as-tu des infos un peu là-dessus en Ontario? C'est-tu vrai qu'ils s'en vont vers ça ou...
Bien, ça, remarque, ça fait des décennies qu'on en parle aussi, sauf que là, maintenant, techniquement, ça semble plus réaliste que par le passé. Le problème, c'est que si tu as des centaines de petits réacteurs nucléaires dans ta province, est-ce que les gens vont vraiment avoir confiance dans le système? Est-ce que tu as des questions de gestion puis de sécurité? Moi, en tout cas, je suis plus un partisan du gros nucléaire. Le problème, c'est qu'on a tout fait au niveau de la réglementation, puis des coûts de la main-d'œuvre, puis des moratoires, et puis des délais. Puis en Ontario aussi, dans le passé, les syndicats s'en sont mêlés. Tu as eu des grèves quand tu construisais les centrales. Le nucléaire est devenu très dispendieux. Non, moi, honnêtement, ce qui me tue, c'est que c'est encore l'histoire du gaz naturel. Le problème à l'heure actuelle, c'est qu'il y a eu tellement, il y a tellement de demandes aux États-Unis avec les centres de données que les fabricants de turbines pour les centrales au gaz ne fournissent plus. Donc, il y a un délai pour ça. Mais le délai pour le gaz naturel à l'heure actuelle, c'est peut-être de 3 ou 4 ans, justement, parce que les fabricants de turbines ne fournissent pas. Parce que, bon, les politiciens nous disent on veut du solaire, de l'éolien, ça ne marche jamais. Partout où tu investis là-dedans, on nous dit c'est la source d'énergie la moins chère. Mais oups, les coûts d'électricité augmentent. Les juridictions au monde où les coûts d'électricité sont les plus élevés sont celles où tu as le plus de solaire et tu as le plus d'éolien, parce qu'il faut que tu construises un système parallèle. Entre-temps, ben écoute, c'est 3 ou 4 ans à l'heure actuelle pour construire une centrale au gaz à cause des délais. Le nucléaire, on nous dit que c'est 10 ans. Donc, puis les petites...
Les caissons, micros, là, ouais, c'est ça. Là,
ouais, les caissons, on va voir. Comme je vous dis, ça fait 20 ans qu'ils en parlent. J'ai lu des auteurs qui sont sceptiques, j'ai lu d'autres auteurs qui sont plus optimistes. Je prétendrai pas être un expert là-dessus, mais la crainte, ça a toujours été, est-ce qu'on peut vraiment avoir un paquet de petites centrales nucléaires à travers la province?
L'autoproduction, c'est une bonne idée, ça? On a vu qu'en Nouvelle-Angleterre, là, des panneaux solaires sur les toits, puis le stockage avec des batteries, là, ça semble être pour eux des solutions... qui ont fait baisser, d'ailleurs, les revenus d'Hydro-Québec là, par rapport à ça. L'ancien PDG d'Hydro, Éric Martel, parlait de la spirale de la mort à un moment donné.
Oui, non, mais ce qui arrive avec ces trucs-là, coupez les subventions demain matin, puis je vous assure qu'il n'en restera plus. Là. Donc, et c'est toujours le problème avec ces politiques-là. Les politiques d'énergie renouvelable, c'est toujours une des meilleures façons de voler aux pauvres pour donner aux riches ou de charger davantage aux pauvres. Là, parce que, dans le fond, une des politiques les plus régressives qu'on peut avoir, c'est de faire augmenter les prix de l'énergie, les prix de l'électricité. Et c'est ce qu'on voit dans toutes les juridictions qui investissent dans le solaire et l'éolien. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ben, si tu prends le solaire, tu produis surtout du solaire quand tu en as moins besoin. Tu as la nuit, tu as le soleil, tu as la pluie, tu as les nuages. Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Bien, il faut que tu construises un autre système qui fonctionne soit à l'hydroélectricité, soit au gaz naturel, parce que c'est les deux composantes qui sont très flexibles dans ton système. Donc, tu te trouves à payer deux fois pour ton système. Dans le fond, quand on nous dit que le solaire puis l'éolien, c'est moins cher, on nous dit, bien, regarde le coût d'exploitation de ta voiture dans l'année, regarde le prix de l'essence. Oui, mais le coût de l'assurance, il faut que je change mes pneus, changement d'huile.
L'entretien,
L'entretien, ça compte pas vraiment. Là, on va les oublier. Là, dans notre étude, on va juste regarder le prix de l'essence. C'est ce qu'on fait pour nous dire que le solaire et l'éolien sont moins chers. En pratique, il y a tout un paquet de coûts aussi dont il faut tenir compte. Et ça a toujours été, ces politiques-là, les politiques d'énergie renouvelable, selon moi, ça a toujours été parmi les politiques les plus régressives. Je me souviens, il y a quelques années, les gens les plus pauvres en Allemagne achetaient beaucoup de livres usagés. Pourquoi? Pour les brûler dans leur poêle. L'électricité est totalement chère. Fait que là, peut-être qu'ils ne brûlent plus de les usagers parce qu'ils n'en ont plus à brûler, là, je ne sais pas. Là, mais il y avait des reportages il y a quelques années, justement, parce qu'on veut se donner pas de conscience, parce qu'on met des zélotes au pouvoir ou sinon, bon, je ne sais pas comment ça marche.
Mais des fois, on met du monde au pouvoir, ils ne savent même pas eux autres mêmes comment ça fonctionne. Ils vont prendre les ordres à Davos ou en Chine, là, comme Fitzgibbon qui est revenu avec son... Ah, ben on va mettre les cailles à 17, là, puis les douches, là, on va se calmer là-dessus. Hydro-Québec est perçu comment là-dedans? Parce qu'eux autres, il y avait toujours un 12 à 15 TWh de buffer.
Ouais.
Ça a fondu comme neige au soleil. Eux autres l'ont échappé solide ou...
Oui, mais est-ce que... Encore une fois, je reviens à Milton Friedman. Le gouvernement charge ça. Vous allez manquer de sable. Est-ce que c'était pas prévisible? Vous avez un gros monolithe. Vous avez pas de compétition. Il y a une espèce de... Enfin, peut-être...
On s'assoit, le gouvernement.
Il y a toujours le mythe d'Hydro-Québec. Ça nous définit en tant que Québécois. Un moment donné, il faudrait peut-être reconnaître que c'est un gros dinosaure qui aurait besoin d'avoir des coupures, qu'il faudrait avoir plus de compétition. Puis si on arrêtait d'avoir des décisions politiques, peut-être que justement, on n'investirait pas dans des énergies qui ont fait la preuve qu'elles vous coûtent plus cher et qu'elles créent plus de problèmes.
Et le fait que le gouvernement ramasse un gros dividende année après année, tu sais, je veux dire, on l'a vu pendant les années COVID, ils ont exporté en malade aux États-Unis, ils ont vidé les réservoirs. Je veux dire, là, les tanks sont vides, puis on braille, puis on se demande
ce qu'on
va faire.
Ça revient à ce que Pierre dit, ils sont incapables de prévoir. T'sais, l'offre et la demande, c'est un mécanisme de marché, mais quand tu décides que tu contrôles l'offre, puis que tu n'es pas capable de prévoir la demande. T'sais, c'est ça qu'ils ont. Fitzgibbon faisait le tour des business en disant « Hey, l'électricité pas cher, coûte pas cher.
Hey, » Ça venait, il y a des compagnies...
Il y a combien de gens qui ont perdu leur job, moi, quand je me souviens encore une fois de deux podcasteurs de Lévis qui interviewaient Bernard Drainville qui nous disait que lui, il y a cru. Y a-tu mis son argent là-dedans? Moi, ce que j'aimerais qu'on fasse avec les histoires d'éolien de la CAQ, c'est qu'on les force à mettre leur argent là-dedans puis que le prochain gouvernement coupe les subventions à ces projets-là.
Ouais.
En tout cas,
ben, on a cru aux batteries en pensant que Trump allait se faire battre aussi de l'autre bord, parce que là, ça a viré de bord aux États-Unis. Oui.
Ben, justement, c'est en partie. Je ne sais pas si vous suivez la Californie au Québec. Je m'excuse de parler comme quelqu'un qui s'attarde.
Non, la Californie, nous, on la suit, mais c'est pas tout le monde qui suit. Là.
Comment est-ce qu'on peut ruiner un État comme la Californie, surtout le long de la côte où tu n'as pas besoin d'air climatisé? Puis à l'intérieur des terres, évidemment, c'est différent, mais même en Californie, maintenant, ils allaient tirer à plug sur leur dernier réacteur nucléaire, ils l'ont pas fait. Et en plus, c'est une bande d'hypocrites parce que ça fait longtemps qu'ils achètent l'électricité produite au charbon dans d'autres États. Fait qu'ils disent toujours, nous, on lave plus blanc que blanc, mais en même temps, on importe notre électricité d'ailleurs qui est produite au charbon, que ce soit de l'Utah ou d'autres États là-bas. Donc, encore une fois, les systèmes d'énergie sont complexes et lorsqu'on laisse les politiciens décider des principales orientations, bien, vous allez avoir la situation que vous avez au Québec. Et selon moi, il n'y a rien au cours des 25-30 dernières années qui laisse qui prouve que d'investir davantage dans l'éolien est une bonne idée. Il y a des raisons pour lesquelles, dans les années 70, personne ne voulait rien savoir de ça.
Oui, mais on s'est servi beaucoup des parcs éoliens privés pour monter les tarifs d'hydro aussi. Là, hein? C'était des dépenses admises devant la régie.
Oui, mais ça, c'est pour se donner bonne conscience, je pense.
Ben oui.
Là,
c'est pour. C'est bon.
Honnêtement, c'est pas là-dessus. Puis c'est une autre chose qui a changé, vous en avez peut-être parlé, mais pendant longtemps, la demande d'électricité a stagné dans la plupart des économies avancées. Mais là, avec l'intelligence artificielle, les centres de données, soudainement, on a besoin de beaucoup plus d'énergie. Puis on a besoin d'une énergie fiable. Là. On peut pas. Un centre de données, tu peux pas plugger ça sur l'éolien quand ça monte, ça baisse, t'en as pas. Ah, le vent est trop fort, faut que tu débranches tes éoliennes. Ah, le vent est pas assez fort. fort, tes pales tournent pas. Donc, non, c'est pour ça qu'ils veulent du gaz naturel puis du nucléaire. On en revient toujours aux questions de base. Donc, c'est facile de faire en bon français du virtue signaling quand ta demande d'électricité stagne. Puis comme Frank le disait, partez votre lave-vaisselle après minuit. Mais quand la demande, pour la première fois depuis des décennies, augmente rapidement, puis tu as besoin d'un courant fiable, ben là, non, tu peux plus...
Non, c'est ça.
Très intéressant. Pierre Desrochers, professeur géographie à l'Université de Toronto. On s'en reparle.
OK.
Merci beaucoup. Bye-bye. Puis pendant ce temps-là, tu sais, je sais pas si tu as vu, la CAQ, les autres, ils ont allumé, ça fait peut-être 6 mois, là, hein, ces centres de données. Ils nous ont sorti ça, là, comme si depuis 3-4 ans, ils étaient sur la batterie pas mal. Ça a pris du temps avant qu'ils admettent leurs erreurs. Le logo est arrivé à un moment donné, avant qu'ils partent. Il a dit, hey, les centres de données, c'est peut-être l'avenir. Là, on va faire des centres de données complètement. Là.
Ah oui, extrêmement intéressant de démêler un peu tout ça parce que on s'en fait pas. C'est parce qu'il y a toujours une tentative de nous vendre des grands projets, mais tu dis, ouais, mais des fois, peut-être qu'on pourrait juste revenir sur le plancher des vaches un peu. Là.
Les
grands projets, on a fait le tour.
Et tu n'as pas grands analystes. Lui, il est à l'Université de Toronto, Pierre Desrochers. Mais tu sais, au Québec, là, les analystes énergétiques, là, tu regardes le chaire de recherche, puis tout ça, ils sont tous financés par la banque, soit par Hydro ou par d'autres joueurs qui ont des contrats qu'Hydro.
Oui, c'est ça.
Tu comprends, là, tu sais, il n'y a pas une grosse critique.
Non.
Moi, à l'époque, quand j'étais au Soleil puis au Journal de Québec, j'écrivais beaucoup de textes. Et Jean-Thomas Bernard était une de mes sources. C'est un prof qui était à l'Université Laval. Il est rendu à l'Université d'Ottawa, mais il est quand même vieillissant, là. Donc, tu as des jeunes profs d'économie qui critiquent Hydro-Québec. Il n'a pas tant que ça, là.
Non, il n'a pas tant que ça.
Souvent, tu grattes. Hé, tabarouette, c'est pas long que les chaires de recherche. Hey, le financement vient. Ferme ta gueule.
C'est ça.
Ferme ta gueule.
Essentiellement.
Voilà, 10h36 après la pause. Hey, la campagne électorale s'en vient, mais je pense qu'elle a déjà levé.
Elle a pas mal levé. Oui.
On va faire le tour avec Luc Ouellette. Luc, un analyste stratège. On va décortiquer un peu tout ça. On revient après la pause.
Couture.
Oui.
Dans le mid.
On revient dans pas long.
Radio X.